Vous êtes française ou français et vous résidez à l'étranger ? Les élections européennes arrivent à grands pas. Rendez-vous le dimanche 9 juin pour élire les représentants français au Parlement européen. Ou le samedi 8 juin si vous résidez sur le continent américain ou dans les Caraïbes. Bon vote !
Entre 1h et 6h du matin, les nuits de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Un être polyvalent, un artiste peintre qui écrit aussi sur l'art, notamment le concept de trilectique. Figure centrale du mouvement Cobra, artiste passé par l'international situationniste Asger Jorn, au centre de ce profil perdu, dont voici la seconde partie.
Après avoir été l'âme de Cobra, car pour moi c'est l'âme de Cobra, Jorn, c'est à mon sens le peintre le plus important de Cobra, le plus original, le plus puissant. Mais ensuite, il va jouer un rôle considérable dans l'international situationniste. C'est-à-dire qu'il y aura aussi un rôle politique de Jorn, diable d'homme.
Profil perdu, Asger Jorn, par Luc Ponette et Marie-France Nussbaum.
Jorn n'a jamais renoncé à un tableau. Il l'a toujours poussé jusqu'à une presque destruction.
Pierre Alechinski.
Mais une presque destruction à voir, bonne à voir, d'un enseignement, pour lui ou pour quelque autre. Je ne crois pas qu'il détruisait. Je crois qu'il poussait plus loin, ou il recouvrait d'une autre couche, mais il ne voulait pas s'avouer vaincu. Je crois que c'est assez caractéristique chez lui. Il a perdu beaucoup de tableaux, il a abandonné des tableaux par distraction ou par désordre. Il comptait un peu sur les autres à ce moment-là pour recueillir ces tableaux, laisser un peu derrière lui. Ça pouvait arriver, c'est une chose qui pouvait arriver. Mais les tableaux étaient, quand il jugeait que ça n'allait pas, c'était plus que de la retouche. Alors c'était en profiter d'une erreur pour en faire une qualité. C'est un peu une règle générale dans la création. Quand on... D'une maladresse, il faut essayer de la tirer vers quelque chose d'enseignant pour trouver une autre image.
C'est bien, ne conduisait pas du tout à une peinture pensée, une peinture préparée, une peinture intellectuelle. Pas du tout.
Christian Dautremont, dont l'entretien a été enregistré quelque temps avant sa mort, en 1979.
Je dois revenir un peu au Jylland pour dire que souvent, on voit, et c'était à son insu, on voit dans sa peinture la forme du Yunnan, qui est en même temps la forme, la tête d'un lutin, qui est en même temps la forme d'un phallus. Cette multiplicité de formes dans une seule forme est aussi très caractéristique de Jorn et de la plupart des animateurs de Cobra et de Cobra en général. Et c'est pourquoi le nom de Cobra convenait très bien, puisque Cobra est un calembour qui est polysémique et qui annonçait cette polyvalence de forme dans la peinture. Il y a quelque chose d'un peu, disons, mystérieux, amusant, dans le fait que Cobra unissait trois petits pays, les artistes de trois petits pays, et que Cobra a vécu 3 ans. Je vois dans Cobra 3 stades, le spécialisme, c'est-à-dire le peintre qui peint, l'écrivain qui écrit, l'interspécialisme, c'est-à-dire l'écrivain et le peintre qui peignent ensemble dans la même durée de spontanéité, par des alternances spontanées, quasi synchrones, la même, une œuvre commune. Et alors, le 3e stade de Cobra, je le vois comme l'antispécialisme, c'était l'antispécialisme, c'est-à-dire le peintre qui écrit, l'écrivain qui peint, etc.
L'autodissolution du groupe Cobra, en 1951, coïncide avec le séjour de Jorn au sanatorium de Silkeborg. Il y écrit « La chance et le hasard ». En 1953, il quitte le Danemark, la santé restaurée. L'année suivante, Jorn séjourne en Italie, à Albisola, où il travaille la céramique avec Appel, Bay, Corneille, Fontana et d'autres. Plus tard, il fera de Paris son port d'attache.
Quelle est l'importance de l'expérience dans l'art? Elle est en même temps essentielle et insaisissable. L'expérience dans l'art et dans la technique est comme le levain pour le pain. Loin d'ajouter quelque chose à l'œuvre elle-même, elle l'inspire et l'agrandit à une échelle dramatique.
Si tu ajoutes quelque chose à un tableau, que ce ne soit jamais pour des raisons esthétiques, uniquement pour des raisons d'expression, conseil 100 fois éprouvé. Il s'isolait en chantonnant, c'est-à-dire qu'on ne pouvait plus lui parler puisqu'il chantait. Et ça, c'est une méthode un peu danoise, parce que Carl Henning Pedersen aussi, et Hérope le sculpteur aussi, c'est... Et pendant ce temps-là, il peint. Il peint et on le regarde peindre. Ça, il s'en fiche complètement. Ça, c'est, il s'isole avec tout en fumant un gros cigare. Et tout en...
C'est une peinture qui est très, très nordique.
Corneille.
Et on connaissait mal cet art. Par après, évidemment, j'ai connu la peinture de Munch, qui était un dieu. Ça, je dois le souligner, c'était un dieu pour Jorn. Et c'est une peinture qui ne connaît pas de ligne droite, la peinture de Jorn. Il n'y a pas de ligne droite. Vous avez peut-être remarqué, tout est en lacets, en arabesques, des formes souples, rondes, déliées, comme une écriture. C'est une écriture. Sa peinture est une écriture, finalement.
Qu'est-ce qui, à voir peindre Jorn, était le plus étonnant pour vous peintre?
L'apparente, attention, entre parenthèses, l'apparente facilité de Jorn, parce qu'il il sifflotait en peignant, et il peignait aussi de nombreuses toiles, il allait d'une toile à l'autre, c'est-à-dire il ne s'acharnait pas sur une seule, il travaillait à beaucoup de toiles à la fois, ce qui est assez surprenant. Il les finissait presque en un jour. À un moment donné, bon, ben, toutes les toiles ayant été nourries et ont été façonnées selon son imagination, donc aptes affronter le monde, le regard, les regards des gens, ben, toute l'étoile était pratiquement terminée le même jour, ce qui était assez, tout à fait surprenant. Il les accrochait comme ça dans une pièce, je me souviens, à Albisola, là je l'ai vu peindre très souvent, il accrochait comme ça cette toile sur plusieurs murs, et puis il allait d'une à l'autre. Et puis rien ne le dérangeait, parce que je me souviens, il avait des enfants en bas âge qui jouaient aux billes entre ses pieds, pratiquement, et ça ne le dérangeait absolument pas, il était au contraire très content. Il a toujours pu travailler dans une espèce de grand remue-ménage au sein de sa famille, par exemple.
Je ne cherche pas, je ne trouve pas, je crée. Mais je recherche une harmonie intérieure et je ne la trouve pas. Et c'est cela qui m'intéresse chez les autres. C'est toujours ce qu'on est incapable de faire soi-même qu'on aime chez les autres.
Avec difficulté, depuis des mois, je travaillais à une composition insoluble, anxieux. Pourquoi peiner autant? Le tableau possédait déjà son titre, « Guerre des oiseaux, bataille improbable », qui se déroulait surtout en moi. C'était en 1955. Jorn entre dans l'atelier, jette un œil et sans hésiter, hisse la toile sur son épaule gauche, côté pile. Il ne la voyait que vaguement en transparence. Il s'empare d'un tube de couleur vive, le premier qui lui tombe sous la main, le presse vigoureusement, soulignant, cernant sur le côté face, ce qui lui paraissait toujours, en transparence, et donc inversé de droite à gauche, s'imposer. Guerre des oiseaux, replacé sur le chevalet, c'est peut-être dans ce sens que tu devrais poursuivre, sortir l'image. Sur le coup, je fus consterné. Il m'avait mis en possession d'une clé majeure, je ne le savais pas encore. J'ai fréquenté Jorn après Cobra, alors toujours jusqu'à sa mort. Mais il a vécu des mois chez nous, quand il a voulu se réinstaller à Paris, etc. Alors là, je l'ai vu travailler aussi. C'était très utile pour moi, parce que quand il a passé plusieurs mois, c'était, je crois, en 54-55, c'était avant mon voyage au Japon. J'avais à cette époque-là 27 ans, donc j'étais encore très perméable à de bonnes influences, et c'était bénéfique pour ma formation. Je ne sais pas ce que j'aurais même fait s'il n'avait pas rencontré des êtres aussi exceptionnels que, en peinture, des gens comme Jorn ou Bram Van Velde aussi. J'appartiens à une génération qui a eu beaucoup de chance.
C'est en 1956, lors de son exposition à la Galerie Taptou, qui est son premier grand succès international, ce qui est assez extraordinaire, car enfin, il n'était plus si jeune.
Jacques Calonne.
Et tout de suite, je suis devenu son lié d'amitié. Et ensuite a eu lieu le congrès des artistes libres, cette année même, donc, à Alba. C'est certainement à Alba que là, l'ayant vu peindre, pendant 15 jours, que j'ai appris énormément sur la peinture, parce que c'est ce qui caractérise les grands maîtres, les grands professeurs. Et puis quand je faisais les quelques huiles et aquarelles que j'ai faites là-bas, il venait voir, il donnait son avis, et c'était très très vite fait, et il m'apprenait beaucoup plus pendant les quelques heures, enfin non, pendant 15 jours tout de même, On n'allait pas tout le temps à l'atelier, on allait manger, on sortait aussi. Mais enfin, j'ai appris beaucoup plus que dans une académie, ce que j'aurais appris en combien de temps. C'est sans doute là qu'on reconnaît les vrais maîtres, les vrais professeurs, enfin bien qu'il ne s'agisse pas ici d'un professeur, mais ils savent plutôt donner l'impulsion à quelqu'un que d'expliquer ce qu'il faut faire et surtout obliger des élèves à faire ce que eux font et chercher à avoir des disciples. Ça, c'est pas du tout ce qu'ils faisaient. Ce qui m'a frappé, c'est qu'ils ne commençaient pas un tableau par le centre, comme on pourrait penser qu'il faut toujours faire. C'était généralement par un coin. Et ça, ça m'a beaucoup impressionné parce que ça casse le mouvement classique, académique du tableau qu'on peint en commençant par ce centre qui, après tout, a un centre de symétrie. Bon, mais ce qui me frappait, c'était évidemment l'extraordinaire liberté de forme, d'invention. Pour moi, et bien encore un peu pour tout le monde, un tableau était quelque chose qu'on réalisait d'après un projet qu'on avait, soit mentalement, soit qu'on avait devant soi. Or là, la peinture s'organisait à partir de sa propre matière, comme à peu près c'est général actuellement, dans la musique par exemple. Donc il n'y avait pas de forme préconçue, mais une forme engendrée par la matière elle-même. Et c'était très frappant chez lui.
Il avait certainement pas la volonté d'être un maître ni un guide. Il a été un bohème toute sa vie.
Michel Ragon.
Il était animé par une force de la nature qui était chez cet homme malade. Une force de la nature extraordinaire, une intelligence et une culture d'ailleurs très très forte. Et il allait, il faisait des choses. Il y avait certainement d'une manière sous-jacente un esprit politique alors qu'il l'animait. C'est peut-être la chose qui l'animait le plus. Beaucoup plus que la création artistique, si vous voulez. La création artistique, la création du peintre, faisait partie chez lui d'un tout où rentrait la musique, l'archéologie, l'écriture, etc. Par contre, l'idée politique post-marxiste, post-trotskiste, enfin gauchiste, si l'on peut dire, dans le sens plus courant du mot aujourd'hui, est sans doute une chose qui animait tout ça et qui était le point de soudure, ce qui faufilait tout ça, comme on dirait en couture.
Il était pour la création et pour la scission, Jorn. Alors, il adorait créer des choses, quitte à en provoquer par la suite la désagrégation.
Édouard Jaguerre.
Les deux choses étaient intimement liées dans son esprit et étaient aussi bien l'une que l'autre indispensables à toute entreprise créatrice. Même dans sa peinture, il était comme ça. Il avait dit un jour à un de nos amis communs, n'est-ce pas, quand tu as fait un tableau dont tu es vraiment persuadé que c'est la meilleure chose que tu aies faite depuis longtemps, n'est-ce pas, que ça te semble à tous égards bien, intéressant, beau tableau, etc., eh bien, il faut prendre une lame de rasoir et le liquider, ce tableau, le lacérer, voilà. Il ne l'a jamais fait pour lui-même, mais il le conseillait aux autres. C'est ça, Jorn, n'est-ce pas? Tous ces côtés-là existaient chez lui. Un jour où il était venu à Paris, précisément, pour parler de l'activité commune, voir ce qu'on pouvait faire ensemble, alors Jorn râlait formidablement parce que Max Biehl avait fondé à Ulm un nouveau Bauhaus, n'est-ce pas? Et Jorn disait que ça n'avait rien à voir avec le Bauhaus, que lui ne concevait pas les choses comme ça, que le Bauhaus, c'était beaucoup plus expérimental que ce que faisait Max Biehl, etc. Et je lui ai dit à ce moment-là, eh bien, écoute, si tu veux vraiment faire quelque chose contre le Bauhaus de Max Biehl, fais-le d'une manière humoristique et pense que nous avons parmi nos amis le groupe imaginiste, qui était la composante suédoise de Cobra. Le groupe imaginiste et appelle ça pour un Bauhaus imaginiste contre un Bauhaus imaginaire. Voilà. Et alors, cette formule, on l'a prêtée à Jorn, mais pas du tout. C'est moi qui lui ai suggéré ça un jour. Il est parti d'un grand éclat de rire et a trouvé ça excellent. Et quelques jours après, il faisait un papier à lettres avec cette en-tête-là.
« Bauhaus est le nom d'une inspiration artistique. Asger Jorn, dans une lettre au directeur du nouveau Bauhaus à Ulm, l'architecte Max Bill, 1954.
Bauhaus n'est pas le nom d'une inspiration artistique, mais la signification d'un mouvement qui représente une doctrine bien définie. Max Bill, dans une lettre à Asger Jorn.
Si Bauhaus n'est pas le nom d'une inspiration artistique, c'est le nom d'une doctrine sans inspiration, c'est-à-dire morte. Asger Jorn, dans une lettre à Max Bill. Seul un art nouveau peut éviter que l'homme futur soit réduit à un simple instrument de l'équilibre social. Tout acte d'imagination est un acte magique, une prise de possession de l'objet désiré. L'œuvre d'art ne se répète jamais. Il est dans la nature de l'art d'être unique. L'art, c'est l'acte unique de l'homme, ou l'unique dans les actes humains. Un art qui n'est pas fondé sur cette manifestation unique n'est plus un art. Ce n'est que la résonance diminuée d'un art qui a cessé d'être.
Jorn était un homme qui abandonnait difficilement une idée sans en avoir trouvé une autre pour la remplacer.
C'est ainsi qu'il a, il est passé à l'international situationniste.
Alors. Exactement. Il a donc à ce moment-là pris contact avec les situationnistes par l'intermédiaire d'un peintre italien, très intéressant aussi d'ailleurs, du nom de Pino Galizio.
Il y a eu un mécène assez important aussi dans les années fin 50-59, le mécène de Venise.
Ah ben oui, du Palazzo Grassi, comment s'appelait-il ?
Paolo Marinotti.
Paolo Marinotti, voilà. Oui, on peut dire qu'il a fait la fortune matérielle de Jorn. Mais Jorn, qui n'avait rien d'un égoïste, en dépit de ses côtés égocentriques, en a fait profiter là aussi beaucoup de ses amis, parce que sous l'égide de Jorn, au Palazzo Grassi, Marinotti a présenté des expositions dans lesquelles on retrouvait à peu près tous les peintres que je vous ai cités, et bien d'autres encore, des expositions comme La vitalité dans l'art, par exemple, absolument superbes, avec des catalogues somptueux, qui était un peu moins répandu qu'aujourd'hui, et tout ça, c'était le travail de Jorn. Le passage de tous ces gens au sein de l'international situationniste, ça a quand même, je crois, puissamment contribué à faire quelque chose d'important et de reconnu historiquement, disons, de ce qui n'était au début qu'une fraction, une dissidence de l'international lettriste.
À la même époque où le groupe de Cobra s'efforçait d'atteindre le stade expérimental de l'art, un groupe et presque un climat artistique surgissait à Paris, surtout dans le domaine littéraire et cinématographique, en pleine élaboration d'une sémantique expérimentale sous le nom de lettrisme. Il est significatif que dans notre époque, avide des plus minimes fausses nouveautés, ce bouleversement qui se faisait en excluant le mot « art » du vocabulaire, en le remplaçant par « l'action expérimentale », ait pu passer sans que l'on envisage jamais son importance. Les troubles du comportement de Saint-Germain-des-Prés étaient jugés comme des excès hasardeux, sans que l'on se soit rendu compte qu'une pareille fermentation ne peut s'achever sans qu'il se passe quelque chose. Il était évident que la poursuite des développements futurs devrait se faire à partir d'une confrontation des résultats obtenus par l'international des artistes expérimentaux et l'international lettriste. Le résultat en fut, après le congrès d'Alba dans l'été de 1956 et la conférence de Cossio da Roccia en juillet 1957, la constitution d'une internationale situationniste.
La participation immédiate à une abondance passionnelle de la vie est le but des situationnistes. Ce mouvement culturel révolutionnaire qui enflammera mai 68 est mené par Guy Debord, l'organisateur théoricien, le peintre Constant qui définit l'urbanisme unitaire et Asger Jorn qui pratique la peinture détournée.
Soyez modernes, collectionneurs, musées. Si vous avez des peintures anciennes, ne désespérez pas. Gardez vos souvenirs, mais détournez-les pour qu'ils correspondent à votre époque. Pourquoi rejeter l'ancien si on peut le moderniser avec quelques traits de pinceau? Ça jette de l'actualité sur votre vieille culture. Soyez à la page et distinguez. Du même coup, la peinture c'est fini, autant donner le coup de grâce. Détournez. Vive la peinture.
Les situationnistes décident que, puisque la vie quotidienne sera tellement exaltante, les œuvres d'art isolées deviennent superflues. En 1961, Jorn démissionne pour combattre sa propre notoriété devenue envahissante.
Jorn, lui, il avait besoin d'être totalement indépendant, de suivre ses fantaisies, ses fantasmes. Et la première chose qui lui convenait, c'était d'être en possibilité de revenir totalement sur ce qui avait été convenu à tout moment, parce que c'était le sens de son inspiration.
Jean-François Gégère.
C'était tout à fait... excitant de rencontrer ce genre de bonhomme. Ça s'est passé pas trop mal pour finir. On a fait quelques expositions, je crois qu'il lui convenait bien et qu'il m'a moi appris beaucoup de choses. Je connaissais, comme tout le monde à Paris, la peinture de Jorn, le Cobra était quand même un mouvement très très important et on avait suivi ça. Ça m'avait pendant assez longtemps paru très loin de ce que j'aimais et défendais à l'époque. Les gens comme Bissière étaient beaucoup plus classiquement français et Jorn était l'intrus complet. Dubuffet m'avait déjà mis à côté de mes visions ou de mes conceptions tout à fait précises puisqu'il avait été le premier démolisseur dans mes concepts et Jorn est arrivé là-dedans avec cette espèce de fabuleuse je ne dirais pas ingénuité parce qu'il n'était pas ingénu, mais liberté ou capacité de tout entreprendre, de tout concevoir, y compris le plus invraisemblable. Donc j'avais besoin probablement et sûrement d'apprendre autre chose, de vivre autre chose, et ça a été pour moi une grande révélation. Il n'y avait pas pour lui de choses sans intérêt. Il y avait des états. Il peignait d'une manière très curieuse. Il peignait par à coups. Il était à un certain moment en train de se charger en faisant n'importe quoi, en écrivant ou en allant picoler ou en fumant des cigares ou en courant les filles. C'était donc il arrivait à se charger en intensité, et à ce moment-là, il y avait une sorte de déferlement de tableaux, il y avait une série de tableaux qui apparaissaient, qui étaient tous produits de cet état. Là-dedans, il y en avait qui étaient plus ou moins aboutis, plus ou moins réalisés. Et pour lui, c'était toujours aussi vrai, aussi intense, aussi. Enfin, il ne cherchait pas à faire un tableau pour faire un tableau. Il avait besoin de dire quelque chose. Il le disait pleinement, et ça fonctionnait comme ça. Dans le déroulement du temps, même au cours des expositions, quelquefois on le voyait disparaître de la galerie pendant quelques minutes. Il revenait avec un tube de peinture et un pinceau, et puis il faisait une correction avec une sûreté absolument totale. Il avait remis son tableau en état, et puis ça y est, c'était fini. Et j'avais beau lui dire que le tableau était déjà reproduit au catalogue dans la phase précédente, il disait qu'il se voulait que ça me foute. Il est mieux comme ça, et c'était vrai qu'il était mieux. Bon, c'était son droit, c'était sa liberté, c'était son processus.
La gouge soque pour une main à plume. Asgerion grave une planche à même la presse. Peter Bramsen, imprimeur né, veille, s'affaire, circule sur la passerelle. Bientôt le résultat risqué sur la totalité du tirage de l'ultime superposition du même bois modifié. À copeaux dans la barbe, gouge active. Machine à l'arrêt, le margeur et le receveur attendent. Il n'y aura aucune épreuve préalable. À place sur le plateau, Jorn chantonne dans un léger bruit d'arrachement de bois. Ses mains font penser à la danse des petits pains de Charlie Chaplin.
Partie de ces peintres qui vraiment aimaient les papiers, qui aimaient le...
Peter Bramsen.
Le gravure, les estampes, la lithographie, enfin, et comme moyen de s'exprimer. Bon. Et vraiment, il aimait ça. Et quand on se mettait à travailler, c'était un travailleur. Hein. Et c'était un vrai plaisir de travailler avec lui, parce qu'il savait, il avait une connaissance, et il nous utilisait d'une manière... merveilleux, enfin, c'était crevé les soirs souvent, mais c'était très, très dense, mais formidable.
Il était dans son exécution, dans le dessin, dans son travail sur la lithographie, il était rapide, il était lent,
Non, il a voulu voir les résultats, donc toute l'équipe, là, il a voulu avoir les résultats rapidement, c'est ça, parce que... bon, mais là, à cette époque-là, on était toute une équipe, enfin, c'est-à-dire que... on pouvait montrer assez rapidement enfin, le résultat. Enfin, quand on fait la litho, normalement, la préparation doit rester des préférences une nuit, mais ça, souvent, non, on n'avait pas le temps de faire ça. Mais on a des raisons, pas seulement en lithographie, mais aussi des gravures sur bois qu'on a fait. Il y en a une là que j'aime beaucoup, sur le mur. Quand il démarrait, il avait peut-être une petite esquisse sur, comme ça, une idée comme ça, mais sinon, ça se développait en fur et à mesure, couleur par couleur. Enfin, c'était une vraie aventure. Pour lui aussi, c'était vraiment une aventure chaque fois. Enfin, et on arrivait des fois avec une estampe, voilà, qui était un peu problématique. À un moment donné, on fait ça, on tourne ça, et ça donnait des trucs formidables. Enfin. Il n'y avait pas beaucoup de pertes, finalement, non plus. Il avait une idée, il savait ce qu'il a voulu arriver. Nous, on ne savait pas tout sûr, mais enfin, mais une fois qu'en route, là, on avait quand même beaucoup de complicité. C'est quand on parlait en couleur avec... un vocabulaire comme ça pour trouver une teinte. Et je pouvais souvent lui faire les couleurs qu'il aimait bien. Il dit, ah, soit il faut le violacer un peu plus. Ah non, tant pis, j'enlève un peu là. Enfin, il y avait un équilibre toujours de surface, couleur, force et nuance.
dois dire que j'aurais souhaité assister à ces rencontres entre Dubuffet et Jorn. Ça devait être une vaste, une extraordinaire vaste rigolade, tellement c'était chacun de entièrement présent et entièrement décidé à surprendre l'autre. Cette espèce de besoin de séduire l'autre complètement, ça devait être extraordinaire. La musique qui en est ressortie est présente et on l'écoute toujours avec un grand plaisir.
L'art est l'invitation à une dépense d'énergie sans but précis, en dehors de celui que le spectateur lui-même peut apporter. C'est la prodigalité. La valeur artistique, contraire à la valeur utilitaire, appelée ordinairement matérielle, est la valeur progressive parce qu'elle est la valorisation de l'homme lui-même par un processus de provocation.
Qu'est-ce qui vous paraît le plus important dans les écrits de Jorn ?
Sans doute ce qu'il a écrit à propos de la langue et des tireurs de langue. Parce que là, il y a quelque chose aussi qui, littérairement parlant, est assez curieux. Et puis ce problème de la langue, de la langue qui est tirée, est aussi un problème de la langue, c'est-à-dire de la langue de l'écriture. Et puis le tireur de langue, c'est l'irrespect, c'est le côté provocation, c'est le côté aussi des grandes fêtes populaires, le carnaval, tout ça était toujours très sensible, toujours beaucoup influencé la pensée de Jorn.
Beignet tartare au tambour. La marmite ne mentionne pas explicitement l'origine du cru et de la cuite, mais, pourrait-on dire, elle sait si bien que là est son sujet véritable qu'elle restitue presque littéralement l'épisode de la cuite du tonnerre transformée en gueule de bois. À l'appui de ce rapprochement, on peut faire valoir que la marmite M contient un détail à première vue incompréhensible. Comment expliquer que le héros emploie de la farine pour nettoyer la gueule du loup ? Sauf à interpréter ce geste comme le reflet transformé d'un acte similaire inclus dans la marmite 14A sur l'origine de la langue pourrie, le détail serait complètement arbitraire.
La langue verte et la cuite, par Asger Jorn, directeur de l'Institut scandinave de vandalisme comparé, et Noël Arnaud, édition Jean-Jacques Pauvert, 1968.
C'est assez extraordinaire, les écrits de Jorn. C'est pas obscur, c'est quelque chose de fumeux, mais de génial, toujours. J'ai mis en meilleur français un texte de lui, donc que je connaissais bien. C'est une sorte de théorie sur l'art, c'est très étrange. Il faut deviner, il suggère plutôt qu'il n'explique. Il n'est jamais logique. Il faut comprendre que la logique danoise n'est pas du tout la nôtre. Nous, gens du Sud, et je crois que le Sud alors commence déjà l'Allemagne du Nord, c'est que les Danois pensent en trois termes. Nous pensons toujours en plus, moins. En danois, il y a le « ya », le « nei », le « mosquée ». « Mosquée », c'est « peut-être ». Et le « peut-être » est une très grande importance. Par exemple, et c'est pas si vieux, si Niels Bohr a découvert ses électrons sauteurs dans la théorie atomique, d'après le modèle de Rutherford qu'il a perfectionné, c'est parce qu'il a inventé une mathématique à trois termes, qui est positive, il y a des résultats positifs, négatifs ou indéterminés. Et chez Jorn, c'est d'une grande importance. Il a inventé la triolectique, par exemple, qu'il appelle comme ça. Et c'est tout à fait la pensée danoise. Donc, il ne faut pas chercher une logique telle qu'on la conçoit, nous, dit-on cartésien, j'en doute un peu, mais enfin, il ne faut pas chercher cette logique binaire si on veut comprendre les écrits d'Jorn.
Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de rupture à l'intérieur de Jorn. En tant qu'homme, entre l'écriture et la peinture, c'est la même chose. Jorn est un personnage, est un homme d'une intelligence redoutable, d'une imagination redoutable, d'une liberté de prise de contact absolument invraisemblable. Et c'est pour lui, le mot ou la touche, c'est à peu près la même chose. Il travaille de la même façon, ça jaillit comme ça. Un jour, il est venu un matin, il est arrivé ici à la galerie, il me dit, est-ce que vous vous rendez compte que le premier des deux, c'était pas Adam, c'était Ève. Il faut revoir toute l'histoire du monde. Bon. Il avait mijoté ça des temps. Mais évidemment que quand on se trouve devant un point de vue pareil, comme ça, auquel on n'a pas pensé soi-même, ça renverse complètement toutes les données. Ça, c'était Jorn. Il était capable de se piéger lui-même, comme ça, de se forcer à revoir les choses autrement. C'est assez fabuleux.
Quelle était son attitude vis-à-vis des choses matérielles et l'aspect commercial
Invraisemblable. Il était là aussi complètement libre. C'est quand même le bonhomme qui a refusé un prix américain vraiment important, en lui traitant de tous les noms, par télégramme, ce qui n'est pas toujours très facile. Il faut le faire. C'était pas un homme riche. Il n'avait pas les moyens de se permettre des gestes comme ça de prestige. Mais c'était toujours le sens de la liberté et l'obligation pour lui d'être totalement indépendant.
Parce que le succès international est venu vers 1964 à peu près.
C'est venu relativement tard. Tard, oui. Par rapport à ce que réclament les jeunes peintres actuellement, c'était tard. Il avait eu le temps déjà de mijoter sa peinture et son expression. Il était déjà très mûr. Et puis il vivait normalement bien. Il avait des supports, des galeries et des amateurs un peu partout dans le monde, mais ça ne comptait pas. Il n'aurait jamais fait un tableau pour accepter une commande. C'était une chose qu'il ne pouvait pas concevoir. C'était pas un homme d'argent.
Est-ce qu'il avait la conscience d'une œuvre à faire ou de son œuvre?
La seule conscience qu'il ait eue de son œuvre, c'est le musée de Silkeborg. Pour finir, il souhaitait en faire un lieu où soit recueilli un petit peu de ce qu'il avait fait. Mais pour le reste, la gloire l'intéressait pas tellement. Il y avait chez lui une défense fondamentale, c'était son rire. Le rire homérique, c'était vraiment le rire de Jorn. Quand il se mettait à rire de n'importe quoi, y compris des mauvaises actions ou des bêtises qu'il avait faites, c'était extraordinaire, on ne pouvait pas résister. Tout était guéri par ce coup de soleil qui vous arrivait. Quand ça n'allait pas bien et quand le lendemain d'une cuite ou après une mauvaise expérience, il se mettait à rire, ça arrangeait tout, c'était le cauter total, c'était bien.
c'est la peinture qui domine toute l'œuvre, et on peut même dire la pensée de Jorn, elle est surtout dans sa peinture. Mais il a essayé, oui, de définir cette primitivité danoise, ou plus largement cette primitivité scandinave, dans plusieurs ouvrages. Et on peut peut-être parler d'une méthode jornienne, comme on parle d'une méthode de Léonard de Vinci. Je crois que cette méthode peut être définie en un mot par la triolectique, puisque Jorn a créé ce mot, et que ce mot convient très bien à sa pensée et à sa peinture. Encore une fois, il n'y a pas d'opposition du tout, il n'y a pas de différence entre la peinture et la pensée. D'ailleurs, on trouve souvent dans sa peinture cette forme d'entrelac, cette forme triple. Dans les années 60, il a compris que c'était l'emblème, l'archétype de cette primitivité, de cette mentalité scandinave. Je crois que c'est l'élément le plus original de cette triolectique, c'est l'acceptation de l'imperfection qui dépasse les antithèses du beau et du laid, du bien et du mal. Il disait d'ailleurs au sujet de sa peinture que pour qu'une peinture soit énergique, soit forte, il fallait qu'il y ait une zone de manque, une zone sale, une zone imparfaite. Et je crois que cette triolectique, c'est un rythme dans lequel les arythmies s'intègrent. C'est un rythme d'autant plus vivant et que l'on trouvait déjà dans sa peinture avant qu'il ne définisse cette triolectique et qu'il n'invente ce mot. Jorn avance assez rapidement, après quelques tâtonnements, oui, il a subi des influences de Léger, mais là c'était des influences Kodler, des influences de Nolde, naturellement, peut-être un peu de Munch, de Kandinsky, peut-être un peu de Miro, dans sa peinture, et je crois qu'il a souvent pensé en peintre, donc il n'est pas indifférent de citer des noms de peintres à propos des influences que Jorn a subies sur sa pensée même. Jorn avançait, peignait, pensait par torsion triple, comme dans ces entrelacs, par un slalom vagabond, apparemment vague au début, mais bondissant. Et il tombait parfois, mais il renversait les jalons pour mieux les inclure dans le jeu, pour les transformer en forme de fond, en diable de neige de couleur. Et on se demandait où il était, il n'était plus dans la course. Il avait franchi tout net la ligne d'arrivée, mais il était déjà reparti imprévisiblement. Son écriture, à cet égard, est très caractéristique, sans faire de graphologie. La plupart écrivent net au début, puis c'est flou, ça devient vague, fatigué. Jorn écrivait flou les premières lettres, se casser les jambages, et hop, les dernières lettres étaient de la plus forte netteté. Et hop, il repartait en bouleversement, toujours à fond de forme tordue. Il descendait au-delà du ciel de l'arrivée. Il descendait jusqu'aux enfers pour reprendre feu de joie, pour reprendre aussi feu de tragédie. Il gravissait la préhistoire au-delà de l'histoire, il remontait la pente encore plus vite qu'il n'était tombé. Il transformait la neige et la terre et les couleurs fabriquées, l'acrylique aussi, en un orage.
Quelles étaient ces dernières expériences? Parce que je crois que la galerie, vous l'avez eue jusqu'à la fin de sa vie, jusqu'en 73. Quelles étaient ces dernières expériences sur le plan artistique, les céramiques, les affiches, etc.?
Il avait beaucoup peint. Il avait travaillé avec des affiches déchirées qui sont comme des tableaux. Et ce qui est extraordinaire, c'est l'espèce de certitude qu'il avait dans ce travail de décomposition et de recomposition à la fois, d'inventer quelque chose sans y toucher. Il ne se permettait jamais de faire une retouche, de recoller un bout de papier ou de mettre une touche de couleur. Ça ne pouvait pas exister. Il fallait que ce soit un dialogue complet avec l'inconnu, avec le hasard. Il y a de ces collages-décollages qui sont tout à fait prodigieux. Plus tard, il a entrepris de la sculpture en Italie. Je n'ai pas eu la chance de pouvoir les exposer. Il était parti à Cuba faire cette expérience commune. Il a peint un local, une ancienne banque. C'est un lieu absolument magique. C'est assez incroyable ce que ce bonhomme a pu créer comme musée idéal. Et puis, tout à fait à la fin, il était revenu à la peinture. Il y avait des tableaux très remarquables qui étaient en train de se faire que je n'ai pas pu exposer. Ils sont partis aux États-Unis. C'est notre ami John Lefebvre qui les a exposés à New York. Il y a quelques chefs-d'œuvre qui sont partis. Et on est toujours un peu jaloux, un peu triste de ne pas avoir eu la chance de tout avoir. Quand on a revu ces tableaux, surtout à l'exposition du musée de Nîmes, puisque malheureusement les musées français n'ont pas encore été capables de faire un grand hommage à Asger Jorn, il y avait quelques tableaux qui étaient revenus, on a vu cette continuité, quelque chose qui était devenu plus lumineux, presque plus apaisé. Curieusement, alors que la maladie le grignotait par l'intérieur, et il y avait une espèce de sérénité et de joie de vivre absolument phénoménale dans ces tableaux. C'est quand même un sacré bonhomme. Et ce type avait soigneusement préparé sa survie par une cérémonie qui devait suivre sa mort. Nous avons été tous réunis à Silkeborg au musée et nous avons été emmenés sur un bateau dans le soleil couchant et ramenés dans le soleil levant. Et avec une quantité phénoménale de boissons diverses et surtout alcooliques. Et après ça, il y a eu un dîner, c'était la grande fête. Je dois dire que mourir avec ce sens de la fête, c'est quand même assez prodigieux.
Longtemps, j'ai peint dans une perspective joyeuse. Qu'est-ce que Jorn en pensera? Lui, parti, je continue à me demander, après peindre, qu'aurait-il pensé? Grille placée sur tout travail nouveau qui préserve une activité de fantôme d'atelier et la mienne. Qu'allait-il encore créer? Aucune raison de se faire une raison. Devant un papier découpé de Matisse, je ressasse. Jorn aussi, à 80 ans, aurait pu, de ses mains, sortir des merveilles. Malraux s'est bien ébloui d'un Van Gogh imaginaire, atteignant le grand âge de Monet, un vide étoile signé en 1939.
Au fond, je ne sais rien. En tout cas, rien que je puisse expliquer. Devant le tableau, je sais seulement ce que je dois faire et comment je dois le faire. Le pourquoi reste hors du domaine de l'intelligible. Lorsque je peins, je ne sais pas exactement où je vais. Si j'ai une idée, elle est toujours vague. Et je suis obligé de me rendre compte que le résultat a peu de rapport avec l'idée. Des idées, il est bon d'en avoir, même si on ne les suit pas. À quoi ça sert, je ne sais pas. Je sais seulement que ça sert.
La peinture de Jorn est pour moi une des très grandes peintures de cette après-guerre. Et ça, ça reste pour moi, quand je revois un tableau de Jorn, je suis toujours frappé par la force qu'il y a dans cette peinture. Et je trouve qu'Asger Jorn est un des grands méconnus de la peinture contemporaine. Oui, Jorn n'est pas compréhensible si on ne comprend pas son humour. Jorn était d'ailleurs quelqu'un qui riait beaucoup, qui riait, qui avait un bon rire, il avait un bon rire, enfin il riait franchement, il rigolait quoi, enfin c'est le bon rire d'Asger, c'est aussi un de mes bons souvenirs, je l'entends très bien rire. Il y avait chez lui toujours un irrespect pour les valeurs établies, il y avait un irrespect qui était aussi assez politique d'ailleurs, hein. Et son humour est un humour énorme d'ailleurs, c'est l'humour du carnaval, c'est l'humour ubuesque, c'est Ubu et c'est aussi Rabelais.
Jorn était un être très 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 chaleureux et il mordait à pleines dents dans la vie, ça c'est certain, c'était un grand jouisseur. Merveilleux. Il aimait beaucoup, beaucoup, beaucoup les enfants. Et quand il tombait amoureux d'une femme, son idée première, c'était de... Il la voyait tout de suite en mère. Il en a eu quand même quelques-uns, des enfants. Il en a fait pas mal.
« 1er mai 1973, par téléphone, une voix de Copenhague. Jorn, c'est fini. » En juin, les amis reçoivent un carton d'invitation orné d'un dessin ultime tracé au lit. C'est la jeune veuve, Nana, qui reçoit. « On passera la nuit de la Saint-Jean au Jutland. Rendez-vous à Silkeborg, Kunstmuseum. » Parmi les peintures, les dessins, les gravures, les livres, les céramiques, sous le fou rire de Stalingrad. Il y aura des discours, de la musique, un violoneux de Norvège, deux trompettes de la brasserie de Colombes, sa dernière banlieue parisienne. Promenade sur le lac aux rives balisées par des feux, grand dîner scandinave le soir dans le restaurant de la ville, boissons et poissons d'hiver. On viendra de Berlin, de New York, de Villiers-le-Bel, de Londres, de Dreux. On s'amusera. Ainsi en avait décidé Jorn. Seul, l'avant-veille, Nana avait convoyé les cendres à Gotland, en mer Baltique.
Si la société ne peut tolérer les voyants qui se font voyants exprès, consciemment, l'art devient intolérable.
Profil perdu, Asger Jorn, par Luc Ponet. Avec Pierre Alechinski, Corneille, Jacques Calonne, Michel Ragon, Édouard Jaguer, Jean-François Gégère de la galerie Jeanne Bûcher, Peter Bramsen, la voix de Christian Dautremont, document INA, entretien avec Jean-Clarence Lambert, 1979, la voix de Jorn, document de la radio danoise. Texte lu par Yves Arcanel. Mixage, Jean-Louis Boissonnade, Yves Baudry. Réalisation, Marie-France Nussbaum.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 3 juin 1993.